I now like to introduce you to Université de Montréal Professor Olivier Bauer, who will speak about hockey as a religion. Olivier Bauer est né en Suisse et a passé sa vie professionnelle sur trois continents, en France, en Suisse, à Tahiti, à Washington, D.C., comme pasteur dans diverses églises protestantes et comme assistant et chargé de cours aux Université de Lausanne et de Neuchâtel. Depuis 2005, il est professeur à la faculté de théologie et de sciences de religion de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la transmission du christianisme et sur la relation entre la culture et la religion, notamment sur la valeur spirituelle de la nourriture et sur la relation entre le sport et la religion. Il est l'auteur de 8 monographies, L'Hostie, une passion québécoise, Hockey as a Religion, le Montréal canadien, une théologie des Canadiens de Montréal, le protestantisme et ses cultes désertés, et parmi d'autres. Ici, professeur Bauer, avec son conférence, Le Canadien sur la ligne rouge entre la foi et l'idolâtrie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation. Thank you so much for having invited me. It's a great honor to be in their beautiful place, and I feel very happy to be there. Je vais parler en français, et donc je vais vous parler en tant que théologien sur cette religion du Canadien de Montréal qui fait fureur, et notamment au moment des séries. Je ne vais pas vous faire toute l'historique du Canadien de Montréal. J'imagine que la plupart d'entre vous savent à quoi je fais référence. Donc un club qui est plus que centenaire, qui est une des institutions sportives les plus anciennes, et donc qui a gagné sa dernière Coupe Stanley en 1993, et puis qui n'a plus rien remporté depuis 2015, mais évidemment, comme on le sait, chaque année, ça sent la Coupe, et on pense que c'est cette année que les choses vont se passer. Du côté de la religion, je ne vais pas non plus le définir de manière trop exhaustive, mais vous rappelez qu'à mon avis, ce qui caractérise une religion, c'est l'idée d'une relation, d'une communication avec une transcendance, peu importe comment on l'appelle, Dieu, l'absolu, on peut lui donner encore d'autres noms, mais je pense que c'est ce qui fait la caractéristique d'une religion, cette relation, disons, verticale avec quelque chose, quelqu'un qu'on appelle l'absolu, l'ultime, de transcendant. Et vous allez voir comment ces deux choses se mêlent dans le Canadien de Montréal. J'ai fait des recherches, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille sur ce thème-là, et petit à petit j'ai un peu nourri ma réflexion. Et la première chose et la plus centrale qui, à mon avis, fait du sport, alors je parle ici du Canadien de Montréal, mais c'est certainement valable pour d'autres sports dans d'autres régions du monde. Mais ici à Montréal, ce qui me semble intéressant, c'est que le point de départ, en fait, c'est que de dire pourquoi est-ce qu'un match tout va bien et le Canadien remporte la victoire, et puis le soir d'après tout va mal et le Canadien perd lamentablement. Et l'explication que l'on donne le plus souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui échappe à la logique humaine. Si vous entendez, si vous écoutez les commentaires des commentateurs en français, c'est probablement différent du côté du Montréal anglophone. J'ai toujours frappé d'entendre les commentateurs qui parlent de la rondelle comme si elle avait une vie propre. La rondelle sautille, la rondelle dévie, la rondelle bondit. Moi, j'ai toujours pensé que c'était les joueurs qui la maniaient, mais il semble que non. Alors, soit c'est la rondelle qui fait un peu ce qu'elle veut, ou alors il y a des puissances là derrière, ou au-dessus du sport, qui permettent d'expliquer tout ce qu'on appelle les aléas, les choses qui sont imprévisibles. Et c'est là qu'on a quelque chose de l'ordre d'une religion, parce que s'il y a effectivement, alors, un dieu ou des dieux, ou les fantômes du forum, ou les dieux du sport, les dieux du hockey, qui sont là quelque part et qui ont une action sur la patinoire, alors tout le problème ou toute la responsabilité du partisan, c'est d'essayer de faire jouer ces dieux ou ce dieu avec son équipe, en l'occurrence avec le Canadien. Évidemment, à Montréal, et c'est aussi intéressant, je pense, de distinguer encore une fois le Montréal francophone du Montréal anglophone, c'est que du côté francophone, on a une culture extrêmement catholique, et cette religion du Canadien va s'exprimer, sans grande surprise, autour de cette identité québéco-catholique ou franco-catholique, avec cette expression, alors je ne sais pas si quand ils ont gagné, on dit qu'ils les ont trempés dans l'eau bénite. Donc, vous voyez comme on trempe sa main pour faire un signe de croix. On ne sait pas très bien ce que les joueurs ont trempé. Chacun d'imaginer ce que les, à quoi ça peut référer. Mais c'est ces raisons-là qui me semblent autorisées à parler d'une religion du Canadien. Alors, comment est-ce que cette religion s'exprime? Alors, il y a quelques dogmes qui sont absolument incontournables. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur la masculinité, parce qu'il y a aussi une construction d'une masculinité en hockey sur glace qui est tout à fait intéressante. Alors, le premier idée, c'est justement un dogme du hockey, c'est un homme tu seras, mais évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel homme. C'est quelque chose qui d'abord doit se montrer. Et puis c'est une masculinité qui est évidemment liée à quelque chose, des stéréotypes, beaucoup de virilité et de force et de souffrance. La barbe des séries, donc vous savez qu'on se laisse pousser la barbe pendant les séries. Ce qui est intéressant, c'est que comme le disait Pierre Bourdieu, cette façon de faire n'est pas seulement pour distinguer ceux dont l'équipe participe aux séries ou ceux dont l'équipe ne participe pas aux séries, mais c'est surtout une façon de vous me direz tout à l'heure comment ça marche du côté aussi féminin, mais c'est une façon de dire il n'y a que des hommes. Par définition, il n'y a que des hommes qui peuvent se laisser pousser la barbe des séries, et donc c'est les seuls qui sont assez dignes de ce moment-là. Et puis les cicatrices, j'ai toujours été frappé. Évidemment, l'idéal en hockey sur glace, c'est de donner son corps vraiment au sens propre pour son équipe, donner ses larmes et son sang. Je ne reviens pas sur le deuxième dogme du Québec, mais le français, si vous vous rappelez, mais c'est déjà loin, mais au début de la saison, il y a eu des grands titres dans tous les journaux parce que le Canadien avait nommé quatre co-capitaines, tous anglophones. Et c'était quand même une grande question. Chaque année, ça revient de savoir comment est-ce qu'on peut avoir si peu de francophones dans le Canadien. Mais moi, je trouve toujours important de souligner que c'est bien le Canadien de Montréal, c'est-à-dire une ville multiculturelle, multireligieuse, multilingue. Et probablement que le Canadien est plus le Canadien de Montréal que le Canadien du Québec. Ou en tout cas, il est à la manière dont Montréal fait partie du Québec. Et puis un dernier mot, mais je ne vais pas élaborer, mais j'ai toujours trouvé très intéressant cette devise « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut », qui est la devise du Canadien, qui est empruntée donc au poème de John McCrae, qui était d'ailleurs, j'ai découvert, un graduate de McGill. Mais voyez, si vous traduisez, pour ceux qui peuvent le faire, du français à l'anglais, ou de l'anglais, enfin de l'anglais au français, puisque l'original est en anglais, vous voyez, on a, je trouve intéressant, parce qu'on a des failing hands d'un côté, donc plutôt l'idée des mains qui sont en train d'échouer, et du côté francophone, français, on a nos bras meurtris. Donc on a quelque chose qui est très lié à la souffrance, à la passion, et peut-être même à la passion du Christ. J'avance un peu dans cette religion. Alors, le texte est un peu long, mais j'ai reçu ce courriel quand j'avais commencé mes recherches et donné mon cours sur la religion du Canadien. Je vous le résume très brièvement, c'est une maman qui raconte que sa fille, c'est une maman qui a la chance d'être invitée dans une loge pendant les matchs du Canadien, et puis elle va un soir avec sa fille, et puis sa fille avait fait un exposé à l'école l'après-midi même, et avait parlé à ses amis de l'oratoire et du frère André. Et sa fille, Victoria, c'est intéressant, le nom aussi est symptomatique, elle avait distribué des médailles de frère André à ses copains, copines de classe. Et puis, on arrive, c'est un match contre les Rangers de New York, et le Canadien perd, sauf erreur, 4-0. Et puis, la maman, un peu désespérée, dit à sa fille, « Demande de l'aide à frère André, il te doit bien ça. » Et la fille se met à prier, et il y a tous des compliments sur la foi de sa fille. Et puis, la mère dit, « Chaque fois que ma fille priait, bam, le Canadien scorait un nouveau but. » Et donc finalement, miracle, le Canadien finit par gagner, donc 19 février 2008. Et la mère est très fière parce qu'elle a contribué, et sa fille, à cette victoire du Canadien. Vous voyez, c'est une première manière, je trouve, d'intégrer, quand je vous parlais de ces dieux du hockey ou de Dieu, ou de frère André, qu'il faut courtiser, séduire pour qu'il joue avec le Canadien. C'est un premier exemple qu'on a là. Un deuxième exemple, et ça c'est vraiment l'opposé, l'inverse, c'est un jeune homme, un étudiant à l'Université de Montréal qui vient me voir dans mon bureau et me dit, il s'appelle Jonathan, il me dit, moi j'ai un site, sur une page sur Facebook qui s'appelle « La religion du Canadien » et sur mon site, je vais vous donner le lien, enfin pour que vous puissiez y accéder, j'ai mis des photos de mon temple du Canadien que je tiens dans mon appartement. Donc imaginez un jeune étudiant qui a 20-25 ans, qui a un petit appartement probablement à Montréal, et il dédie une pièce entière pour faire son temple du Canadien. Alors il me montre les photos, enfin, il a, donc tout est installé comme dans une église un peu catholique, il y a des drapeaux le long des murs, et puis au fond il y a cet autel, donc une table avec un drapeau du Canadien. Et sur cet hôtel, vous voyez, il y a des joueurs de l'époque, hein, notamment Saku Koivu. Et puis ensuite, il a fait en rondelle une espèce d'escalier qui mène jusqu'à la Coupe Stanley, qui est là au milieu. Et il y a 4 rangs de rondelles d'escalier pour arriver jusqu'aux 4 rondes avant de remporter la Coupe Stanley. Et il ajoute que dans un coin, il a un banc du forum, mais il ne s'y assied que pendant les séries, parce que le reste de l'année, ça vaut pas la peine. Donc, vous voyez, on a une autre façon de faire du Canadien sa religion, c'est-à-dire que cette fois, le Canadien, on a l'impression, est l'objet même de la religion de Jonathan. C'est comme s'il vénérait, qu'il adorait, qu'il croyait dans le Canadien de Montréal. Vous voyez, ces deux manières différentes de mélanger le Canadien et la religion. Pour Victoria, en fait, elle inclut le Canadien dans sa religion et son Dieu, hein, qui probablement l'accompagne tout au long des activités de son existence, va aussi accompagner le club qu'elle soutient, le Canadien de Montréal. Jonathan, lui, fait un modèle où il va syncrétiser, il va synthétiser, il va mélanger à la fois la religion et le Canadien pour en faire une nouvelle religion que je qualifie de la religion du Canadien. Hier, hein, vous voyez, on est en période des séries et hier, il y a peut-être Aaron, est-ce qu'il est dans la salle ou j'ai reçu un courriel d'un étudiant de McGill qui me passait cette image. Alors là, on est tout à fait dans la manière de Victoria, c'est-à-dire des gens qui vont à l'oratoire Saint-Joseph pour demander un miracle. Ce qui n'a pas bien marché, c'était dimanche après-midi, comme quoi ça marche pas à tous les coups. Et puis de l'autre côté, alors c'est à double, triple degré, hein, mais vous voyez un mélange, on voit le maire de Montréal qui prie Jesus Price, hein, c'est comme ça qu'on le surnomme. Et puis vous voyez dans cette religion que Denis Coderre pratique, évidemment ça crée des jaloux, à la fois ceux qui, comme le maire de Québec, n'ont pas d'équipe à prier, et puis comme le maire de Saguenay qui, lui, n'a pas le droit d'exprimer publiquement sa religion. Voilà, c'est des exemples, mais chaque année, on peut recommencer hein, à faire le compte de cette religion, ces aspects religieux. Alors, je voudrais être clair, hein, des fois, on me demande, non, ma religion du Canadien n'est pas ma religion. J'aime beaucoup regarder le Canadien de Montréal. Si je suis invité au Centre Bell, j'y vais avec beaucoup de plaisir. Mais c'est pas ma religion pour 3 raisons principales. Et notez que ces critiques peuvent être appliquées à toutes les religions. C'est pas uniquement quelque chose qui est lié au hockey. D'abord, c'est la question de la fragilité. Je suis toujours un peu effaré quand je vois notamment des étudiants ou d'autres personnes qui font du Canadien le centre de leur vie. Je me dis, si le Canadien est vendu et s'ils déménagent, qu'est-ce qu'ils vont devenir ou qu'est-ce qu'elles vont devenir? Donc, il y a quand même, je sais que le Canadien existe depuis 100 ans, mais qu'est-ce qui va être dans 10 ans, dans 20 ans? Les choses ne sont pas assurées. Deuxième critique, et encore une fois, je la retourne aussi contre toutes les religions, y compris celle que je pourrais aimer, c'est une question de tribalisme. C'est quand même, alors le hockey est peut-être moins pire que d'autres sports, mais il y a quand même une violence hein, qui parfois s'exprime, parfois reste un peu verbale dans le hockey sur glace. Et évidemment, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est mauvais signe quand une religion impose de détester tous ceux qui ne sont pas de la même église ou de la même religion ou du même club de hockey. Et puis troisièmement, c'est la question de la sélection. C'est quand même effarant. Hein. Moi, j'ai été très frappé de voir avec quelle rapidité des joueurs sont vendus. Le dernier exemple qui m'avait frappé, Mike Camilleri, il va jouer à Boston. Et puis, entre la deuxième et la troisième période, on lui apprend qu'il est vendu et qu'il doit faire ses affaires et qu'il ne reviendra pas sur la glace parce qu'il doit aller jouer à l'autre bout du Canada. Donc, il y a quand même cette idée d'une sélection. On n'est utile que quand on est utile. Et puis, quand on n'est plus utile, on est jeté comme des vieux torchons. Il y a mieux en matière de religion, pour dire les choses simplement. J'avance un tout petit peu sur cette question d'idolâtrie. Donc, en théologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que ce sont idolâtres ceux qui adorent des faux dieux, mais aussi ceux qui adorent des vrais dieux, mais d'une mauvaise façon. Et vous allez voir que ces deux formes, à mon avis, c'est des critiques théologiques à cette religion du Canadien. Jonathan adore un faux dieu parce qu'il adore le Canadien. Donc c'est la forme première d'idolâtrie. Mais Victoria aussi adore peut-être le vrai Dieu, mais d'une mauvaise façon, parce qu'elle pense qu'elle a un pouvoir pour obliger frère André, Joseph ou Dieu à jouer avec le Canadien. En passant, je signale que dans le courriel de sa maman, en tout cas, Victoria parle toujours de frère André et jamais de Dieu. Donc ces deux formes d'idolâtrie, à l'inverse, la foi, où est-ce qu'elle se trouve? Moi, je n'ai pas de problème en tant que théologien protestant à croire que Dieu joue aussi, et le aussi est important, parce qu'il joue aussi, même avec les Maple Leafs, même si on n'a pas toujours l'impression qu'il le fait, mais il joue aussi avec le Canadien. Comment? Parce qu'il peut inspirer des joueurs en particulier. Il peut inspirer un joueur, un gardien, un entraîneur, pour qu'il devienne le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur possible. Mais à ce moment, il faut faire la nuance en disant qu'évidemment, si Dieu joue avec le Canadien, c'est parce que le Canadien lui-même n'est pas Dieu. Et Jonathan adore le Canadien, et c'est pour ça que sa manière relève de l'idolâtrie. Deuxième idée aussi par rapport à Victoria, moi j'épanne pas à croire que Dieu aime aussi le Canadien. Parfois on me dit, oui mais Dieu il est trop occupé pour s'occuper de choses aussi futiles. Bon, de quoi est-ce qu'il n'aurait, alors si on commence comme ça, c'est difficile de faire le tri. Moi je crois que Dieu peut s'intéresser aux Canadiens de Montréal parce que c'est une réalité humaine et que si Dieu existe et s'il agit dans le monde, il n'y a pas de raison qu'il agisse partout, sauf au Centre Bell ou dans n'importe quelle autre patinoire. Mais je crois encore une fois que Dieu n'est pas celui qui fait bondir la rondelle au dernier moment ou qui la fait sautiller. Je crois que Dieu est celui qui peut inspirer un certain nombre de joueurs, de gardiens, d'entraîneurs. Et vous aurez peut-être remarqué que Carey Price, ça m'a toujours semblé intéressant, porte une petite croix, soit sur l'arrière ou le côté de son masque, suivant les modèles. Et je vois là derrière quelque chose qui est intéressant parce que lui-même témoigne à sa manière d'une inspiration de Dieu ou de l'Esprit. Et évidemment, Victoria a tort, en ce sens qu'elle pense que frère André pourrait faire que le puck rentre dans le filet plutôt qu'il aille à côté. Je termine avec un petit jeu, parce que souvent les gens doutent, mais vous pouvez aussi voir sur notre modèle vivant, est-ce que vous trouverez le poisson dans le logo? En sachant que le poisson n'est pas n'importe quoi, parce que c'est un des premiers symboles du christianisme. Le poisson qui se dit en grec ictus a été utilisé par les premiers chrétiens. Ictus, c'est l'abréviation grecque, enfin en français, de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Or, si vous regardez dans le logo du Canadien, de la même manière qu'il y a un petit bonhomme qui sourit si vous lui faites faire un quart de tour, vous avez un poisson en ligne bleue, qui ressemble très fortement à ces poissons qu'on voit sur des voitures ou sur d'autres messages. Donc vous verrez à l'intérieur, vous avez un poisson en forme d'alpha. Alors, évidemment, est-ce qu'il y est, est-ce qu'il n'y est pas? Est-ce que le Canadien veut qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas? J'allais dire, c'est une troisième manière d'utiliser le Canadien en religion, c'est-à-dire d'utiliser un logo du Canadien pour transmettre quelque chose de sa foi ou de ses convictions personnelles. Alors, ce qui est drôle, c'est que une fois que je dis qu'il s'y trouve, probablement, chaque fois que vous verrez ce logo, vous serez obligé de penser au poisson qui figure à l'intérieur. Et peut-être, pourquoi pas, allez, c'est le défi du théologien protestant, vous vous rappellerez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et le Sauveur. Je m'arrête là.
Merci beaucoup. Je vous remercie de votre parole.
Puis justement, je pense qu'on a besoin d'un Dieu, un frère André ou même un poisson cette semaine pour nous aider. Puis on va passer aux questions.
Mais si je peux tout de suite rebondir, oui. Parce que je trouve que c'est, quand on dit on a besoin de ça, c'est comme si on n'avait pas confiance. Vous voyez, dans Carey Price, Max Pacioretty, Brandon Prost et les autres.
Justement.
Des questions? Question?
Aspect. Trois, je peux faire en français les réponses.
Oui.
Première réponse, c'est intéressant parce que j'ai lu dans l'histoire des relations entre sport et religion que les protestants ne se sont pas intéressés au sport jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça puisse rapporter de l'argent. Et c'est à ce moment-là que le sport est devenu quelque chose, ils ont valorisé le sport. Deuxième réponse, c'est intéressant au niveau de la religion parce que pendant très longtemps, le Canadien était très prudent. Moi, je l'ai trouvé, n'utilisait pas les métaphores religieuses. On parlait de la Sainte Flanelle, on parlait de Patrick Roy comme Saint Patrick, etc. Depuis quelques années, j'ai l'impression que le Canadien, cette année, leur campagne, c'était « Unissons les fidèles ». Unite the faithful, probablement, quelque chose comme ça en anglais. Et c'est intéressant parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte peut-être que c'était quelque chose qui permettait d'augmenter la fidélité à l'équipe et les revenus, évidemment, de l'équipe. Parce que, troisième chose, et je trouvais que c'était le principal du collège anglican ici à McGill qui le disait, la différence, évidemment, mais c'est aussi une critique qu'on peut toujours appliquer à différentes églises et religions, c'est que le Canadien de Montréal ne s'intéresse qu'à votre porte-monnaie, alors qu'en principe, une religion devrait avoir des objectifs un peu plus élevés. Mais c'est ces trois réponses que je pourrais donner.
Another question. Yes, go ahead.
Encore intéressant. Je suis curieux de savoir si vous avez, si dans cette foi qui grandit, s'il y a eu un lien entre la laïcisation des Québécois depuis la Révolution tranquille et l'augmentation de ceux qui vont prêcher à l'endroit de la
foi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai entendu les deux avis. Moi, évidemment, j'ai pas de recul suffisant, mais il y a des gens qui disaient, avant, et c'est probablement avant la Révolution tranquille, le Canadien, c'était vraiment une religion. C'est-à-dire, c'était une question d'identité, de passion, et aujourd'hui, c'est plus que du business. Donc, on a l'idée, d'une part, que de dire, quand la religion était forte, quand la croyance était forte, la croyance ou la confiance dans le Canadien était forte, et c'était similaire, et aujourd'hui, qu'il y a peu de croyance, il y a peu de confiance dans le Canadien. Et d'autres personnes me disent, comme vous le disiez un peu, il y a une espèce d'inversion, de croisement des courbes, en disant effectivement les Québécois ou les Montréalais investissent des valeurs de foi dans le Canadien de Montréal, ce qu'ils ne feraient plus à l'Église. Mais j'ai entendu les deux choses et je trouve que les deux hypothèses sont intéressantes à garder.
D'autres questions? Oui, go ahead.
It strikes me that in sports, superstition often plays a big role. That there's somehow the universe outside. People have a deep belief that you have to do. This chair has to be like that for the first half, or the half of this, or I'm surprised that is this. I'm wondering how this relates to your argument here today about the specificities of Montreal's experience of the superstition of sports.
My, as a Protestant theologian, I can just say it doesn't work. And for sure, it's sad, but it doesn't work. And it doesn't work in sport, it doesn't work in your life. It never works. You can put your chair as you like. Probably 50% of the time the Canadian will win and 50% they will lose. But it doesn't work. It's just as a matter of fact. And last year I was very a little bit angry, I have to say, because the Catholic Church in Montreal make a big fundraising, and you were able to buy a virtual candle and to light it up on the website. It was just $1, but what does that mean when a church endorses this kind of practice? And at the end, because the guy at the oratory when he was climbing up his knee, he was talking to the journalist. I asked two things, a win for the Canadian, and something about a cure for my cancer or cancer. It won't work for both of them. You can climb up all the stairs you want.
But Jacques Demers went to Saint-Anne-de-Beaupré in 93.
Yeah. And how many times he went to, and he did, to, yeah. Okay. No, but it's a good question. Thank you so much.
Another question? Yes, go ahead.
I go back to 1942 when Maurice Richard was playing and hurt. And he was nobody. And Canadians were going broke. Speak about money. They were going broke.
Yeah.
And remember,
yeah.
Just before that, the previous, the other team that was in the...
Maroons.
Maroons already went broke.
Sure.
This was a tough town.
Yeah.
And they decided that the punchline had Albert Lockin and Joe Blake. And another guy named Joe Benoit.
All right.
But he called him Benoit because he was from Saskatchewan.
Okay. Yeah, yeah.
So we got to get a French connection on here.
Yeah.
And Maurice Richard was just recovering. He'd been there for a couple of years,
yeah.
But they never talk about it in the book.
Yeah.
The Rocket. And all of a sudden, 1942, the best line, he went to war, Joe Benoit.
Yeah.
And they put Maurice Richard on that line, and you know. 50 goals in 50 games.
Yeah.
And Albert Locke was the Hall of Fame. Joe Blake. It all of a sudden it happened, and it's continued right through. I think Rocky Richard is of the Trinity. He's like the Holy Ghost.
Yeah, yeah, yes. It is the one. Yeah, I call him. Yeah, yeah. He's God. Yes, definitely. Yes, it is. Just sur les superstitions, un mot. Je trouve c'est différent encore sur les superstitions. Si la superstition, ça vous donne plus de force en tant que joueur. Ça peut avoir un effet, mais quand je suis devant ma télé, franchement, ça n'aura jamais aucun effet. Désolé, hein, mais c'est comme ça que ça...
Non, mais ça, c'est vrai, parce que peut-être ça a aidé. Patrick Roy était fameux pour ces
c'est
choses,
ça.
Non? Puis peut-être c'était
voilà.
Bon pour lui.
Ouais. Mais si moi, je fais pareil devant ma télévision, ça aura... Patrick Roy, il ne va pas mieux jouer, ou Carey Price ne va pas mieux jouer que...
Another question, d'autres questions? Well, let's say thank you once again to Professor Bauer. Merci beaucoup, c'était très intéressant.